Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on est ensemble jusqu'à midi. Bien sûr, on a un gros programme encore. On va parler foot, évidemment. On va parler vélo. On va parler également Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas aujourd'hui à 15h à suivre sur RMC. D'ailleurs, il y a beaucoup d'événements hein, à suivre aujourd'hui. Il y aura la finale du CC Foot. L'Euro, souvenez-vous, avec les Français champions paralympiques avec l'immense Fred Vieroux. À 18h, France-Angleterre, ce sera à Strasbourg. On est sur place. Il y aura également le basket avec la première de Wemby en France depuis Paris 2024. Match amical face à la Serbie. Orléans à 18h. Et puis, bah, voilà, on va suivre tout ça avec Julien Benneteau, avec Alizé Cornet, avec Marc Madio. D'ailleurs, tu as regardé le rugby, toi, hier, Bennett. Hier, il y avait Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, victoire des All Blacks 33-16 ouais. En Afrique du Sud, première des quatre confrontations entre les Springboks et les All Blacks.
Yes. C'est la finale de la Coupe du Monde, la dernière finale de la Coupe du Monde. Et que pour moi, c'est, ouais, c'est, je trouve ça incroyable. Que ces deux grandes équipes se jouent quatre fois de suite, en plus d'une tournée où les Blacks vont jouer des provinces. Mais je pense que ça va les aider à, bah, on en parle à 11h dans le vestiaire. Quand tu joues les meilleurs
plein de fois,
bah, tu deviens encore meilleur.
C'est comme si on jouait France-Angleterre plusieurs fois.
Ouais, France-Irlande, 4 fois de suite, ce serait magnifique.
Ce sera
avec
magnifique.
La vraie équipe. Comme quand on va dans le sud au mois de juillet avec l'équipe B ou C.
Ouais. Vous avez entendu Alizé Cornet crier un gros yes, ouais, c'est pas qu'elle a retrouvé un euro par terre. C'est juste parce que les championnats du monde de badminton, la finale à New Delhi, la finale du double mixte avec nos Français Delphine Delrue et Tom Jiquel, ils viennent de remporter le premier set face aux Chinois.
C'est
un bloc.
C'est hyper sympa à regarder.
C'est impressionnant.
J'en ai pas regardé beaucoup du badminton dans ma vie, je l'avoue. Ouais. Mais c'est vraiment génial à regarder. Et le mixte, ça va super vite.
Ouais. Quand on est joueur de tennis, on est bon joueur de badminton ou pas ? Est-ce qu'on est bon
pas
en tous les sports de raquettes ?
Oui, il y a des facilités. Il y a des facilités, mais.
Non, mais.
C'est vrai. À droite, quand même.
Ouais. Non, mais tu nous demandes une raquette de badminton et une raquette de ping-pong, on va pas passer à côté de la balle.
Ouais. Ouais. Mais c'est quand même très, très différent. Pour avoir joué un petit peu au bad, c'est extrêmement différent. Là.
Et le pickleball, là, vous êtes bon à ça?
J'ai jamais joué.
On peut changer de sujet.
Un tennis de plage? Non, avec les raquettes en bois, là. Pardon. Non?
Le pickleball ou le tennis de plage?
Le beach de plage aussi, le beach tennis.
Ça prend un peu, hein?
Ah ouais, c'est vrai. C'est très fort en beach tennis. Non, mais est-ce qu'on est forcément fort dans tous les autres sports de sa discipline, Marco? Bah, toi, t'as fait tous les sports du vélo. T'as fait du cyclo-cross.
J'ai fait du cross.
T'as fait de la piste.
Un peu de piste. Ouais. Surtout du cross. Ouais. Mais c'est. Non, c'est. Alors, il y a des points communs, mais c'est quand même. Ça peut être différent.
Ah oui, mais t'as fait de la piste.
Ça peut.
Oui, c'est particulier quand même. Hein.
La piste, ça va vite d'abord.
T'as fait quoi, de la vitesse de la
poursuite? Non, surtout pas. Non, je faisais des disciplines de fond.
Ah oui.
Courses au point, des trucs comme ça, mais
des sprints en fait, comme des courses en ligne.
À l'INSEP, quand on était, il y a un vélodrome.
Ouais. La piste.
C'est
impressionnant.
Enfin, c'est quasiment à la verticale en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est incroyable.
Ah, moi, c'est une de mes disciplines préférées. Enfin, le sprint là, c'est quand ils sont à deux là, ils se chassent. Ah ouais, à l'arrêt, c'est incroyable. On est parti loin là, les amis. Hein.
La mode, c'est plus au VTT.
La mode, c'est plus au VTT. Il y a même le gravel maintenant.
Le gravel aussi, qui marche fort.
Le vélo électrique aussi marche pas mal. De plus en plus.
C'est sûr.
Ah, je l'ai pris pendant l'été, là c'est pas mal quand même. Hein. Mais c'est vrai que tu rentres chez toi, tu dis, je n'ai pas trop fait d'efforts en fait. Mais bon, je suis arrivé chez moi assez rapidement. Allez les amis, dans un instant, on va évidemment parler de Rennes PSG avec Luis Enrique qui trouverait normal que Paris reçoive au match retour. Hein. On rappelle que le match face à Rennes ce soir devait jouer au Parc, il va finalement se jouer au Roazhon Park parce que la pelouse du Parc des Princes n'était pas praticable. Est-ce qu'il a raison? Ça vous fait réagir. En fin d'émission, les jeux du sport, vous pouvez remporter aujourd'hui un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photo Print. Pour le remporter, jouez avec vos GG surtout. Appelez le 32-16, touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord, sur le ring, les amis, Kylian Mbappé est de retour.
RMC, le ring des GG.
On cherche la profondeur, la verticalité. On sait que Kylian Mbappé va très vite.
On doit tout de suite se mettre dedans. On a une parfaite communication avec le groupe, avec les joueurs, avec le staff sur comment on peut s'améliorer.
Super ce ballon pour aller chercher Kylian Mbappé. Là, il peut faire très très mal.
Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilité.
Possibilité à l'entrée de la surface de réparation. Ça va échouer au pied du poteau.
Il faut que je passe le step supplémentaire.
Mbappé pour passer. Mbappé, pas de faute derrière la frappe. Le premier héros de la saison madrilène s'appelle Carlos Espi.
Pour
pense que je brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui.
Uno, dos, tres, à la galerie.
Premier match du championnat espagnol et première victoire pour le Real Madrid de Kylian Mbappé hier soir. Succès difficile, hein, au bout du temps additionnel, 2-1 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Sans but du français, hein. Les buteurs sont Bellingham et Espi. Les Merengues sont désormais entraînés par José Mourinho. Le capitaine des Bleus espère remporter pour sa troisième saison son premier grand trophée avec le Real. Sa Coupe du Monde XXL a peut-être montré le début d'une métamorphose. 10 buts inscrits, oui, pour Mbappé, mais beaucoup plus présent dans le jeu et surtout dans le repli défensif. Les GG, je vous pose la question, c'est la rentrée de Mbappé avec le Real. Est-il devenu pour vous un joueur d'équipe? J'ai deux oui, Marc et Alizé. En tout cas, pensez à la métamorphose possible, peut-être cette année, vraiment pour Marc. Et j'ai un nom pour l'instant de Julien Beneteau, quoi.
Un petit nom, apparemment.
Non, tu me mets dans le cran comme ça du nom.
Bah oui, mais quoi, c'est comme ça, il faut être tranché dans le du sport. T'assumes pas, Benet?
C'est pas ce que je t'ai dit hier quand on a préparé.
Ah, bah pour, tu as peut-être changé d'avis parce
non,
que.
Non, j'ai pas dit oui.
La France des grandes gueules du sport sur le compte X DGG dit oui, il est devenu un joueur d'équipe. À seulement 31%. À seulement 31%. Pour l'instant, la Coupe du Monde de Mbappé peut-être vous a pas fait croire à une grande métamorphose. Vous participez avec nous, évidemment, sur WhatsApp 0612 424 424 et vous nous appelez au 3216. Edgar Grollo est notre correspondant en Espagne. Il est avec nous. Hola, Edgar.
Buenos dias, Georges. Salut tout le monde.
En Espagne, alors, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on a vu déjà un Mbappé nouveau après le mondial pour son retour au Real?
Bon, en tout cas, ce nouveau Mbappé n'était pas encore présent hier, hein, face à l'Espagnol de Barcelone pour son premier match de la saison. On a vu un Kylian Mbappé qui était très clairement en reprise, c'est normal. Sans surprise, il était moins précis, moins impactant, moins présent que celui qu'on a vu à la Coupe du Monde. Et par ailleurs, on n'a pas eu l'impression que José Mourinho lui ait demandé une grande participation aux efforts défensifs. Pourtant, c'est ce que les Madrilènes attendent. Le Mbappé version bleue, une attitude irréprochable, plus d'impact avec et sans ballon, et surtout ce sentiment qu'il est habité d'une mission pour faire gagner son équipe. En fin de saison dernière, une partie de la presse ici l'accusait de trop donner sa priorité à l'équipe de France, l'accusait aussi parfois de ne pas assez penser à l'équipe. À Madrid, tout le monde est persuadé que le vrai Kylian Mbappé, c'est pas celui qu'on a vu depuis qu'il est arrivé au Real, c'est celui de la Coupe du Monde. S'il ramène cette attitude collective à Madrid, l'équipe triomphera enfin, hein, puisque c'est pas encore le cas depuis qu'il est là. Il a regagné énormément de crédit et de respect en Espagne avec cette Coupe du Monde, mais il a aussi mis la barre très haute. À Madrid, maintenant, les suiveurs du club n'accepteront que la version Coupe du Monde de Kylian Mbappé.
Merci Edgar, tu restes avec nous. Ce qui est marrant quand même, c'est que les Espagnols, ils disent, ils donnent trop la priorité aux Bleus. Et nous, quand en équipe de France, ils partaient avant la fin du rassemblement pour avec le Real, on disait, qu'est-ce que c'est quoi? La priorité, c'est le Real maintenant, alors que c'est le capitaine des Bleus. Ça dépend où tu te trouves, en fait. Est-il devenu un joueur d'équipe? Alors, Bennett, t'as le peuple avec toi, mais t'es le seul à dire plutôt non. Mais c'est quoi? Ton nom est pas franc sur le joueur d'équipe?
Parce que à la Coupe du Monde et avec l'équipe de France, sous Didier Deschamps, il est le capitaine. Il a pris ce rôle à bras le corps. Je pense qu'il y a des joueurs dans cette équipe, c'est des amis à lui. Il les avait fait venir au PSG. Il avait envie de jouer avec eux. Il avait envie de les tirer avec lui là-dessus. Et je pense que certains joueurs aussi, au début de la Coupe du Monde, de la préparation, lui ont parlé aussi de son rôle défensif, de ce qu'ils attendaient de lui.
Et puis il est le capitaine en plus. Hein,
voilà,
donc
il y avait une vraie symbiose entre eux. Je ne sais pas s'il l'a aujourd'hui. Pour moi, c'est trop tôt pour se prononcer, de savoir s'il l'a au Real.
Parce que tu l'as jamais vu en club, le joueur d'équipe.
Non, je l'ai jamais vu.
D'équipe de France.
Si, je l'ai vu à Monaco. Quand il était tout jeune, où il courait partout,
mais bon, c'était pas un leader.
Oui, c'était pas un leader. Aujourd'hui, il a des stats individuelles exceptionnelles, un nombre de buts incroyable l'année dernière. Peut-être qu'il a privilégié ses stats individuelles l'année dernière parce qu'il a peut-être vu assez rapidement que avec l'équipe qu'il avait, il allait rien gagner.
42 buts, hein, toute compétition confondue.
Que c'était aussi un petit peu le bazar au Real avec le changement de coach. Je pense que lui, il était très proche de Xabi Alonso et qu'il validait pas le changement de coach complètement et qu'il y avait une partie du vestiaire avec laquelle il était en désaccord total là-dessus. Donc, on va voir.
Penses pas qu'avec un coach comme Mourinho, ça pourrait lui faire poursuivre cette métamorphose?
Je sais pas, parce que je pense que Mourinho, il arrive de nouveau au Real Madrid, mais tard dans sa carrière. Je pense que sa carrière, elle est derrière lui, à Mourinho.
Ça l'empêchera pas de mettre en place
Peut-être
sa
manière d'entraîner. Je ne sais pas quel rôle va vouloir lui donner Mourinho, effectivement. Edgar nous l'a dit, alors c'était un match de reprise, mais hier, apparemment, il n'avait pas eu trop de consignes comme quoi il devait défendre. En revanche, le Real Madrid, cette année, doit gagner un trophée, que ce soit la Liga ou la Ligue des Champions. Et pour ce faire, il va falloir que Mbappé soit dans les stats individuels de l'année dernière, mais avec un impact collectif sur l'équipe. S'il y a une saison blanche encore, effectivement, ça va être compliqué.
Marc, Alisa parlait de Mourinho, dans la possibilité de faire de Mbappé un joueur d'équipe en club. Qu'est-ce que t'en pensais? C'est ça pour toi, la clé?
Pour moi, c'est le bon moment, le bon endroit et les bonnes personnes. La Coupe du Monde n'a pas été totalement réussie pour Mbappé, parce qu'il n'y a pas la Coupe. Il y a eu des belles prestations, il y a eu de l'envie, il y a eu de l'intention, mais il n'y a pas eu le résultat au bout. C'est le moment pour Mbappé, et c'est le moment pour Mourinho. Donc, et je pense que Mourinho.
Il y a trop d'intérêts communs, en fait.
Il y a intérêt commun, et je pense que Mourinho est l'homme qu'il fallait à Mbappé pour changer d'attitude et devenir le joueur de club qu'on attend pour devenir le meilleur joueur du monde. Parce qu'en fait.
Pourquoi il a besoin de quoi, Mbappé?
Il a besoin de titres, il a besoin d'être le meilleur, et il a besoin d'entraîner l'équipe avec lui. Et il a l'homme qui peut l'aider à faire cela.
Pourquoi? Parce qu'il a l'aura,
Moi, je suis fan absolu, et le retrouver au Real de Madrid, je suis pas supporter du Real. Mais avec Mourinho, j'ai envie. Moi, mon rêve, c'est une finale de Ligue des Champions, PSG, Real de Madrid.
Mourinho contre
Luis Enrique et Mbappé.
Mais c'est quoi? Il y a des mecs charismatiques comme ça qui te portent.
Je pense que Mourinho est l'homme qu'il faut à Mbappé pour devenir le joueur numéro un qu'il doit être depuis tant d'années.
Alors moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus.
Un entraîneur qui respecte, un entraîneur légitime pour l'emmener là où il doit aller. Et ce genre d'évolution, pour moi, ça part d'une collaboration, en fait. Et cette collaboration entre l'un des meilleurs joueurs du monde et l'un des meilleurs entraîneurs du monde.
Oui, en tout cas,
le meilleur entraîneur du monde avec lui, il l'a pas fait.
Bah oui, mais
il avait Luis Enrique, il l'a pas fait. Vous avez vu le reportage,
Luis Enrique. Demandait à Mbappé des choses qu'il n'avait pas envie de faire à ce moment-là.
Il lui prend Jordan en exemple, il l'a pas fait.
Mais là, il a plus le choix.
Il est arrivé au Real avec Mbappé.
Attention, Alizé.
Merci.
Non, je disais juste qu'il y avait peut-être pas l'alchimie nécessaire. C'est pas une science exacte, en fait, ce genre de truc. Tu le sais aussi bien que moi. T'as été capitaine de Fed Cup, Julien. T'étais un très bon capitaine, mais parfois t'étais meilleur avec certains qu'avec d'autres.
Je pense que l'alchimie aussi, elle vient de ses coéquipiers, et qu'en équipe de France, il a Dembélé, Dembélé et compagnie, et que Bellingham et Vinicius, je suis pas sûr qu'il ait la même alchimie qu'avec certains joueurs de l'équipe de France.
Non, mais après, il y a le temps qui passe aussi, parce que là, tu parles de Luis Enrique, on a parlé d'Ancelotti quand il est arrivé au Real. Peut-être qu'à un moment donné, Mbappé aussi, il se dit, là, si moi, je remplis pas ce rôle, même avec Mourinho, qu'est-ce qu'on va dire de moi, en fait? Peut-être qu'il a pas fait avec les autres, mais peut-être qu'il va se dire, en tout cas, en équipe de France, s'il l'a fait, c'est peut-être parce qu'il aussi il écoute ce qu'il se dit sur lui. Même son frère le vannait sur ça, sur le fait de ne pas défendre.
Voilà, un avant, un après Coupe du Monde. Peut-être qu'il s'est prouvé des choses aussi en jouant ce genre de jeu en Coupe du Monde. Peut-être qu'il a pris du plaisir. Peut-être qu'il a vu l'effet que ça avait dans l'équipe et le fait qu'il devienne un vrai leader en jouant ce jeu-là. Peut-être que ça l'inspire aussi à continuer dans cette voie-là. Il est quand même suffisamment intelligent, Kylian, pour évoluer. Et
il n'a pas le choix en même temps.
Il n'a pas le choix. Il voit clairement que ça ne gagne pas de toute façon au Real avec cette formation-là. Avec cette
attitude-là, collective.
Donc, il est peut-être temps de changer quelque chose.
Edgar.
Avant la Coupe du Monde, il avait annoncé en interview que, sur le plan de ses efforts défensifs, qu'il voulait commencer justement, qu'il avait compris que c'était important pour l'équipe et que ça apportait beaucoup, et qu'il voulait commencer avec la Coupe du Monde. Il n'a pas dit je veux le faire pendant la Coupe du Monde, il a dit je veux commencer avec la Coupe du Monde. Et continuer ensuite. Donc, pour moi, le grand défi pour Kylian Mbappé, et ça concerne pas seulement la défense, c'est de faire ce qu'il fait sur une Coupe du Monde, ou pour gagner la Coupe du Monde, t'as 8 matchs à jouer, sur une saison de 60 matchs. C'est ça la difficulté, c'est rester concentré et être en mission comme ça pendant 60 matchs. Et c'est ça son grand défi, je pense, parce que pour une Coupe du Monde où on connaît tous les enjeux,
sur un mois,
pour l'héritage que tu vas laisser sur ta carrière, exactement, faut les faire. Et d'ailleurs, c'est la même chose quand on parle de pressing. Mbappé est capable de presser très bien pendant 10-20 minutes. Est-ce qu'il est capable de le faire pendant 90 minutes? On demande encore à voir. Et c'est un petit peu, je pense, le thème aujourd'hui de sa carrière pour passer peut-être
qu'il n'en est pas capable à l'heure actuelle, mais peut-être qu'il a envie de tendre vers ça.
Oui, mais c'est en tout cas, c'est ce qu'il a montré à la Coupe du Monde.
Je pense qu'aujourd'hui, les autres équipes, ils ont une mission, c'est de rattraper le PSG.
Donc t'es obligé de t'adapter un peu à ce qu'ils font.
Exactement. Le Bayern.
C'est la voie à suivre.
Le Bayern le fait. Et aujourd'hui, c'est le football d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même Arsenal le fait.
Mbappé, il a bien vu que depuis qu'il est parti du PSG, ils ont gagné sans lui, en jouant en équipe. Et puis qu'il voit les matchs comme nous.
Et puis il y a certaines équipes qui sont restées sur un certain modèle, qui ont des très bons résultats, mais prennent des grosses branlées par le PSG en Ligue des Champions.
Et quelle équipe est championne du monde? C'est une équipe collective, l'Espagne aussi.
Ah oui, bien sûr.
Donc, l'équipe qui nous a baladé à la Coupe du Monde, c'est aussi une équipe qui joue dans ce style-là. Tiens, les messages sur WhatsApp au 06 12 424 424. J'ai Olivier qui me dit, Bennett, un peu d'accord avec toi, mais Enrique n'était pas déjà l'homme de la situation pour le bouger, donc avec des doutes peut-être.
Mais c'était trop tôt.
Si Mourinho, c'était trop tôt, toi, tu penses. Marc, Jérémy dit un truc intéressant. Il dit, Mbappé peut devenir un vrai joueur d'équipe, mais par contre, est-ce que tu peux devenir un joueur d'équipe s'il n'y a pas vraiment une réelle équipe autour de toi au Real, car l'effectif est très déséquilibré. C'est vrai que
là c'est la patte Mourinho qui va parler.
Non mais voilà, autour t'as Vinicius qui est quand même un joueur qui est pas reconnu forcément pour son collectif. Il y a Jude Bellingham avec son ego aussi qui doit faire sa place. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés avec des objectifs individuels. Est-ce que tu peux être un joueur collectif dans un panier de crabes en fait?
Oui, mais il y a le mec qu'il faut dans ce panier de crabes. Pour moi, Mourinho c'est au Real. C'est la cerise sur son gâteau et sur sa carrière d'entraîneur.
Moi, je crois pas. Moi, je crois pas parce que Mourinho, je pense qu'il a un ego qui est supérieur à ses joueurs et que quand t'as Bellingham, Vinicius, Mbappé à gérer.
Mourinho est aussi capable d'en mettre quelques-uns sur le banc de touche.
Edgar, il a dit quoi, ouais, Mourinho sur
le touche, les autres derrière, est-ce que l'équipe sera aussi forte?
Tu me rappelles la déclat de Mourinho pour les enfants d'équipe.
Ça peut passer.
Edgar. Oui, la déclat de Mourinho, elle est excellente. Il dit, Ancelotti a trouvé le bon système pour Vinicius en sélection, Deschamps pour Mbappé et Tuchel pour Bellingham. Maintenant, le défi de Mourinho, oui, il parle de lui à la troisième personne, le défi de Mourinho, c'est de trouver le système pour les trois. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il va pas construire un système pour Mbappé. Maintenant, on a vu beaucoup de coachs dire ça et on va voir comment ça se profile vraiment concrètement, parce que s'il y a un système pour un joueur, ce sera Mbappé, ça c'est une certitude.
Et j'aimerais trop que vous parliez à la troisième personne parfois. Là. Marc, avant le championnat de France, j'aurais pas pu dire l'objectif pour Marc Madio, c'est que Romain Grégoire soit champion de France. C'est incroyable. Est-ce que Mbappé devient un joueur d'équipe? On a Hugo qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine au 32-16. Salut Hugo, bienvenue dans les GG.
Bonjour à tous.
Bon, Hugo, tu le trouves joueur d'équipe déjà? T'as regardé le match hier?
Alors bien sûr, forcément, en tant que supporter madrilène, j'étais obligé. Et pour commencer, pour moi, c'est trop tôt pour dire que ça va devenir un joueur d'équipe. Mais avec ce que j'ai vu un petit peu hier soir, notamment sur le deuxième but, le fait qu'il s'efface un petit peu, entre guillemets, là où il aurait tout fait pour marquer à l'époque. Plus comme vous l'avez dit si bien, pour moi, Mourinho, il est quand même au-dessus en termes d'ego. Il va un petit peu, enfin, il va même beaucoup mieux gérer le vestiaire qu'aurait pu faire ses prédécesseurs. Donc, pour moi, c'est trop tôt pour le dire, mais je pense quand même, surtout si Mbappé fait le ballon d'or un jour, qu'il va devenir un bon joueur d'équipe.
Ah, non, mais alors, pour le coup, c'est intéressant ce que tu dis, Hugo. C'est vrai que les derniers ballons d'or, lorsqu'on sait que c'est un objectif de carrière individuelle, ils se rendent compte peut-être que ce qui a été sacré, c'est Dembélé, Rodri, qui était un pur joueur d'équipe, Benzema, même, qu'il a eu en attaquant qui marque des buts, mais un attaquant altruiste. Il est trop intelligent pour pas cliquer. Non mais voilà, c'est la question qu'on peut se poser sur Mbappé. Edgar à Madrid, Mourinho revient, on dit peut-être l'homme pour gérer les égos, pour gérer un groupe. Ça s'est pas toujours bien passé aussi quand il devait gérer des égos au Real. Il a eu Cristiano, il a eu Benzema.
Bon. Oui, il a eu un vestiaire de stars, il a eu des grandes stars du Real Madrid avec qui il s'est fâché, je pense à Casillas par exemple, et c'est aussi pour ça qu'il a été pris, c'est-à-dire il a été pris pour prendre des décisions, faire des choix, parce que t'as un vestiaire qui est plein d'ego, qui est plein aussi de très très bons joueurs. On l'oublie parfois en disant que c'est un vestiaire déséquilibré, mais attendez, il n'y a pas énormément de vestiaires dans le monde qui ont autant de talent que celui du Real Madrid.
Là quand tu vois les joueurs rentrer hier, c'est n'importe quoi, hein. Alexander-Arnold, Diomandé, Cucurella.
Tu vas forcément avoir des joueurs qui vont être sur le banc alors qu'ils ont le niveau pour être titulaire dans n'importe quelle équipe. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas que des bons choix à faire, mais il faut faire des choix. Et c'est pour ça qu'ils ont pris Mourinho, parce que Mourinho, il va les faire les choix, et certains seront pas d'accord, mais il va les faire, et ce sera des décisions compliquées. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui peut faire du bien à Kylian Mbappé, de se dire ok, là j'ai un coach qui peut-être s'il faut me rappeler que je suis pas indiscutable dans tout ce que je fais tout le temps, peut-être que je vais avoir quelqu'un qui va me faire des petites piques de temps en temps. Ouais. Alors hier, il a joué 90 minutes alors qu'il avait un match amical dans les jambes, mais voilà, c'est aussi peut-être le genre de coach qu'il lui faut.
Et dans une interview cette semaine, Mourinho a quand même dit, je l'ai vu à l'entraînement Mbappé. Il est stratosphérique. tu les vois, les politiques ou pas? Le mou, là. Ouais. Il est bon, quand même. Sur WhatsApp, tiens, j'ai un message de Sedac sur le débat qui me dit, n'oublions pas qu'il prend de l'âge, n'oublions pas qu'à la Coupe du Monde, il avait encore l'espoir pour le Ballon d'Or, et ça peut aussi expliquer cette surmotivation.
Il n'y a pas le choix, s'il veut. Le
Ballon d'Or.
Mais moi, pour moi, il aura toujours 20 ans.
Non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais quel âge il adore?
98, ça fait quoi? Ça fait 27.
Il doit avoir quoi? Il doit avoir 21 ans, non? Bah, ouais. Le mec est complètement perdu. Non, mais c'est vrai. Mbappé, quel âge il a, Mbappé?
27 ans.
Ouais, 27
c'est
ans.
L'heure.
Ouais, c'est l'heure. La prochaine Coupe du Monde, il aura 31 ans. Ouais. Donc, effectivement, c'est la fleur de l'âge. Non, mais attendez, si Mbappé commence, à devenir vieux.
C'est peut-être l'occasion de s'assagir et d'évoluer.
Mais oui, voilà. Mais c'est ce qu'on a vu peut-être déjà en équipe de France. Il est peut-être sur.
Enfin, de s'assagir. Il est très sage, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, d'évoluer, je pense que c'est.
Gagner en maturité.
Évoluer ou mourir, de toute façon, même pour les meilleurs joueurs du monde.
Je pense qu'il n'a pas le choix.
Les meilleurs ont toujours cherché à progresser, à évoluer, voilà, jusqu'au bout. Sinon, en fait, c'est un échec.
C'est un échec pour ses objectifs personnels. Il n'a pas le choix.
Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il espérait gagner. Et il arrive dans un club. Il est dans un club où il n'a pas gagné. Il y a un changement
d'entraîneur. Il est pointé du doigt, en plus.
Il est pointé du doigt. Il y a un entraîneur qui arrive avec une personnalité forte. Donc, je pense que c'est, alors ça peut être explosif, ça peut rester en rade, mais si ça doit réussir, ce sera avec cela.
Le Real Madrid, donc, qui a gagné hier son premier match sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, 2-1, sans but de Mbappé. C'est quoi le prochain gros rendez-vous pour le Real, Edgar?
Et pour Mbappé? Ils jouent la Real Sociedad cette semaine. Ils ont deux matchs à domicile, Real Sociedad et Malaga. Donc, Real Sociedad, ce sera déjà un test et ce sera à domicile.
Ce sera au Bernabéu. Donc voilà, pour la première au Bernabéu, ça va être déjà l'occasion de voir comment. Ils arrivent à vendre les billets, non? Florentino Pérez, il est plutôt bon là sur la billetterie.
Ouais, en août, je pense que ça va être pas mal de touristes là.
Ah ouais,
bon. faudra pas compter sur l'ambiance.
Et globalement, de toute façon, que ce soit à Bernabéu ou au Camp Nou à Barcelone, il n'y a pas que des supporters catalans ou madrilènes pour soutenir. C'est aussi des lieux très touristiques. Et comme on le voit au Parc des Princes également. Kylian Mbappé, saison 3 au Real, est-il devenu un vrai joueur d'équipe? Votre réponse au sondage sur le compte X, vous dites non à 71%. Donc le non a encore gagné. Bennett a été très convaincu, ce que tu veux que je te dise.
Moi, j'ai remarqué que ces sondages, ils bougent pas beaucoup entre le début et la fin du débat.
Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait 20% de différence?
Là, c'est énorme.
Non, mais tu crois que quand il y a un débat à la présidentielle, là, quelques mois avant le deuxième tour, ça bouge pas de 20% non plus. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai.
Donc, un peu d'humilité sur vos arguments. Ça fait pas à ce point la différence. Un peu quand même. Merci Edgar Grelot, évidemment. On te retrouve. Les émissions reprennent normalement. Hein, donc, Génération After, on retrouve les drôles de dames demain à 20h et toute la grille.
On va pas s'ennuyer cette saison. Hein.
Ah, ben là, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. C'est avec toutes les stars arrivées au Real, avec le Barça qui veut garder sa couronne, avec Rodri qui est arrivé, l'Atlético Madrid, même si Griezmann n'est plus là. Il y a toujours des choses à dire sur les différents championnats. On te retrouve, Edgar, évidemment. Le Super Moscato Show, ça reprend demain à 15h, Moscato Show. Et Hôtel Sans Flamme à 18h également pour toutes vos émissions. On revient dans un instant. On va parler quelque chose qui vous a bien agité hier. C'est le Rennes PSG qui aurait dû être un PSG Rennes, mais faute de pelouse. On va en Bretagne finalement. Luis Enrique dit le match retour il devra quand même avoir lieu chez nous. Hein. Vous n'êtes pas tous d'accord. Est-ce qu'il a raison, Luis Enrique? On en parle avec vous au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. On est ensemble jusqu'à midi, évidemment. On vous accompagne dans ce week-end de reprise de Ligue 1. Hein, ça a repris depuis vendredi, votre feuilleton préféré. Et là, désormais, et dans toutes vos émissions aussi, l'after, notamment, qui s'est pas arrêté de l'été. Dans un instant, on va rendre hommage à Julian Alaphilippe, qui a pris sa retraite à 34 ans. On va remonter le temps jusqu'à son Tour de France. Souvenez-vous, c'était il y a 7 ans où la France avait basculé en pleine Alaphmania. Il y avait eu Thibaut Pinot également qui nous avait bien fait, qui nous avait bien enflammé, et Marco, évidemment, tu nous avais enflammé aussi pendant ce tour. On va en parler dans un instant, mais d'abord, le PSG se déplace à Rennes ce soir à 20h45 en clôture de la première journée de Ligue 1. Les Parisiens devaient recevoir le match, mais leur pelouse n'était pas en état, on en a beaucoup parlé. Rennes s'est retrouvé contraint d'organiser sa rencontre événement de la saison en urgence. Dans ce contexte, la rencontre retour doit-elle forcément avoir lieu à Paris en mars prochain? Luis Enrique, en conférence de presse hier, avait déjà sa petite idée.
RMC, la punchline GG.
C'est clair que quand tout commence une compétition, il y a un principe très important, que c'est des réalités pour toutes les équipes. Et ce n'est pas possible de jouer une compétition quand tu joues les mêmes, contre les mêmes adversaires à l'extérieur les deux matchs ou à la maison les deux matchs. Parce que c'est un principe pour toutes les équipes. Il faut jouer contre toutes les équipes. Un match à l'extérieur, un match au domicile. C'est ça que je pense.
Pour Luis Enrique, peu importe ce qui s'est passé, il faut que le calendrier respecte l'équité sportive et les matchs domicile extérieur être au même nombre. Pour lui et son club, le changement de la rencontre constitue une inversion dans le calendrier justifiée par les circonstances exceptionnel, donc ce qui s'est passé autour de la pelouse. Rennes contraint l'entend différemment, visiblement. Arnaud Pouille, le président exécutif qui sera l'invité de Bartoli Time hein, ce soir à 19h30 avant le match, a annoncé son intention de défendre les intérêts de son club. Voilà, on soupçonne peut-être en Bretagne que le PSG n'a pas forcément tout fait pour trouver les solutions de repli et pour bien anticiper le problème de la pelouse. Les GG, je vous pose la question, est-ce que Luis Enrique a raison d'estimer que le retour doit forcément avoir lieu à Paris, et il y aura une réunion d'ailleurs cette semaine en commission des compétitions hein, avec la LFP pour trancher sur la localisation. Il a raison forcément, Alizé, oui ou non ?
Plutôt non.
Marc ?
Oui.
Bennett ?
Plutôt oui.
On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Tiens, Alizé, pourquoi tu dis non ?
Bah, je le trouve un peu... De l'extérieur, je le trouve un peu gonflé parce qu'au final, cette histoire de pelouse. Alors oui, hier j'ai appris qu'il y avait des raisons. J'ai appris beaucoup de choses avec Pascal en termes de repousse.
Le champignon,
le fameux champignon, et qui faisait que la pelouse n'était pas prête. Mais en fait, c'est de leur ressort finalement de ne pas pouvoir accueillir l'équipe de Rennes. Moi, je trouve que l'équipe de Rennes elle est perdante dans l'histoire parce qu'ils sont obligés d'organiser le match au dernier moment. Ils peuvent peut-être pas forcément vendre autant de billets qu'ils auraient voulu.
Et pas au même prix, visiblement.
Voilà, ou pas au même prix. Et au final, c'est à eux de s'adapter aux exigences du PSG, entre guillemets. Donc, je trouve pas ça juste sur le papier. Après, il y a d'autres tenants et d'autres aboutissants que je n'ai probablement pas.
C'est-à-dire que Rennes est seulement perdant, en fait, dans cette
aventure. Ah oui, enfin, je veux dire, à un moment donné, quand on ne peut pas assumer de recevoir une équipe, finalement, on impose d'aller à l'extérieur sur le premier match, et ben dans ce cas-là, on garde le même calendrier. Et oui, je comprends sa logique de dire il faut un match à l'extérieur, un match à domicile.
C'est l'équité sportive, ouais.
Mais là, voilà, pour moi, là, ça manque un peu d'équité, pour le coup, ce sens-là.
Alizé, Philippe sur WhatsApp, 06-12-424-424, est d'accord avec toi. Il nous dit Luis Enrique, il est mignon, mais s'il veut jouer à domicile, qu'il demande à son club de s'occuper correctement de sa pelouse.
La pelouse de France depuis 5 ou 8 ans.
Oui, mais Bennett, justement.
Ils peuvent pas.
Ils savent très bien s'en occuper. Ils pouvaient pas bien s'en occuper.
Qui a eu la canicule, etc. D'accord, c'est de leur faute.
Si on accède à cela, les clubs, au regard des adversités, vont s'arranger pour faire inverser les confrontations et influer sur l'équité du championnat, nous dit Philippe. En gros, que ce serait peut-être une porte ouverte à quelque chose. Bon, t'es pas d'accord. En tout cas, toi, tu penses que Luis Enrique a raison.
En fait, je sais pas dans quelles circonstances la demande d'inversion a été faite. S'ils disent. Enfin, je comprends pas que les parties soient pas mises d'accord en amont. Ils peuvent pas recevoir le match au Parc des Princes. Ok. S'ils ont pas la certitude d'inverser vraiment et de recevoir au match retour, je suis sûr qu'ils auraient pu trouver une
solution. Mais parce que d'abord, tu gères l'urgence du match à faire dimanche plutôt que de voir ce qui va se passer plus tard dans la saison. C'est en mars, le match retour. Non? Il y avait d'abord une urgence à gérer.
Je trouve que c'est mal géré que cette polémique n'aurait pas avoir lieu. Tu inverses une inversion, ça veut bien dire que tu inverses et que derrière tu reprends le cours des choses qui aurait dû être.
Mais sauf que Rennes ne l'accepte pas comme ça.
Oui, mais alors
c'est ça. On l'a pris cette semaine.
Mais si le mercredi ou le jeudi, quand ils négocient et que Rennes dit attendez. Au mois de mars, on joue chez nous. Mais peut-être que le PSG, ils n'auraient pas accepté d'inverser là dimanche soir. Et ils auraient joué en région parisienne ou sur terrain neutre. Ils auraient demandé peut-être à aller jouer à Lens, à Auxerre ou en Ile-de-France ou au Mans, enfin je sais pas où, pas très loin de Paris, et trouver une solution. C'est là où je suis pas complètement d'accord. Et si le Rennes se sent floué financièrement, qu'il y ait une négociation avec le PSG aussi.
Marc, Luis Enrique, il a raison.
Oui, pour moi il a raison. Et on vit quand même une période au niveau climatique très particulière. Et la situation qui se passe aujourd'hui avec le PSG Rennes va avoir des conséquences sur l'avenir. Et je pense qu'il va falloir être capable de s'adapter aux situations.
Tu veux dire qu'en gros, on risque de revivre cette situation.
On va la revivre. Pourquoi?
Trouver une pelouse pas très loin pour jouer leur
match. Non. Attends, moi, je vais sortir du cadre du football. Moi, j'habite en Mayenne. En Mayenne, on n'a pas le droit de laver les voitures.
Ouais.
À 5 km dans le Maine-et-Loire,
on avait le droit jusqu'à la semaine dernière. Donc on voit bien qu'on a une situation climatique très particulière et les pelouses sont directement impactées par l'eau. Et donc c'est un nouveau problème qu'il va falloir intégrer dans la réglementation du sport en général et du football en particulier. Et je pense que le PSG avait sans doute envie de jouer le match comme initialement prévu, sauf que la météo et la canicule
mais évidemment
influencent de manière importante. Et ce qui se passe aujourd'hui à Paris va peut-être se passer demain à Nice ou après-demain à Marseille. Donc il faut qu'on soit capable de gérer ces situations-là et de les anticiper et de les réguler au fur et à mesure de l'évolution de la météo.
Je serais curieuse de voir combien de cas similaires il y aura pendant la
saison. Il y en aura peut-être plus qu'on n'imagine.
Eh ben, on va voir, Marc.
Enfin, en tout cas, sur la première journée, les seuls qui ont eu le problème, c'est le Paris Saint-Germain.
Oui, mais rien n'interdit de penser que puisse y en avoir d'autres.
Ouais. Bennett.
Ce que dit Marc est plein de bon sens, c'est que c'est en fait aujourd'hui le début de quelque chose qui va se proposer et pas que au football. Bon, les pelouses, donc le rugby, même si
le rugby pour les pelouses.
Comment ?
Est-ce qu'on accepte voilà. qu'on arrose en permanence des pelouses de football et qu'à côté on ne donne pas les moyens à des maraîchers d'arroser les tomates.
Tu veux dire, Marc, le problème c'est pas celui-là de savoir sur les calendriers, le problème il est ailleurs. C'est comment il va falloir gérer toute cette situation. Bah, on peut gérer les deux problèmes.
C'est une conséquence. Mais là il y a eu un problème avec une maladie, apparemment le champignon, etc., qui est lié. Ok. Donc sur ce problème de report, moi je trouve que.
Mais est-ce que Rennes n'est pas floué, en fait, ce que disait un peu à
viser financière, pourquoi pas?
Mais même sportivement, jouer le PSG au Parc des Princes.
Bah, c'est pas mal de la jouer la première journée avec un Dembélé qui a 10 jours d'entraînement dans les jambes plutôt qu'au mois de mars où ils vont être plein badin, en forme avec la Ligue.
Mais c'est peut-être plus facile de gagner au Parc des Princes fin août qu'en mars.
Ça a des avantages, Bennett, là, dans le coup.
Non?
Je sais pas forcément, ça dépend comment tu
fais. Ils auraient pu aller les croquer chez eux au Parc des Princes avec des joueurs qui sont en reprise. Alors là, ils vont devoir
s'attraper. Dans le sens d'Alizé, ils ont perdu à Lens le PSG en début de saison parce que physiquement aussi ils sont pas encore à 100%.
En revanche, je pense que les dirigeants de Rennes, ils ont donné tout pour en prendre 3 ce soir.
Pourquoi tu dis ça? Tu veux dire pour motiver le Paris Saint-Germain?
Évidemment.
Bon, après, ils ont été quand même assez discrets.
On va jouer au match retour. Non, ce sera chez nous, etc.
Mais attends, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Mais voilà, exactement.
Ils défendent leurs intérêts économiques, je veux bien l'entendre.
Mais sinon, on va dire tout le monde baisse son pantalon devant le Paris Saint-Germain, non? Enfin, c'est la nature des messages que j'ai sur WhatsApp.
J'ai pas trouvé leur réaction excessive, moi.
Ouais, moi, je suis un peu d'accord avec
ça. J'ai pas trouvé leur réaction excessive,
Est-ce que le PSG a vraiment fait une faute avec les restrictions qu'il y avait liées à la canicule dans leur gestion de la pelouse?
En tout cas, la team du PSG interroge. Effectivement, je suis d'accord, on ne peut pas savoir s'ils ont fait une faute ou pas. On n'est pas jardinier, on n'était pas sur place. Mais le timing interroge.
Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que ça vient dans une période où médiatiquement, il y a moins de spots allumés sur le PSG fin juillet, début août. C'est les vacances, il y a la Ligue 1 qui va reprendre. Il y a des restrictions d'eau, je ne sais pas comment c'est géré à Paris, est-ce que c'est vraiment réglementé ou pas. Marc donne un exemple très concret sur chez lui, la Mayenne et la Maine-et-Loire. Mais est-ce qu'ils ont fait une faute de gestion? S'ils ont fait une faute vraiment de gestion, ok, pourquoi pas dans ces cas-là, mais je n'arrive pas à comprendre que dans cette inversion de calendrier et de match, on en soit à se dire que tout n'est pas été mis sur la table. Les problèmes économiques pour Rennes, le problème du match retour, qu'est-ce qu'on en fait?
Alors, c'est la faute de la Ligue.
Bien sûr.
Encore une fois,
c'est la faute de la Ligue. C'est-à-dire, pour toi, on écarte le PSG, Rennes, c'est normal que chacun ait
compris. On a un problème, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut la décaler? Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce que le match peut être décalé de 3-4 jours? Est-ce que la pelouse sera prête dans 3-4 jours? Est-ce qu'on peut le faire? Je trouve ça hallucinant que tous ces problèmes-là n'aient pas été mis sur la table dans les négociations.
Tiens, on a Jérôme qui nous appelle d'Isère, qui voulait réagir au 32-16. Salut Jérôme.
Salut.
Supporter de quelle équipe, Jérôme?
Lyon.
Supporter de Lyon. Lyon qui a demandé un report d'ailleurs cette semaine de son match contre Toulouse pour pouvoir se préparer à la Ligue des Champions et qu'il n'a pas obtenu. Non mais juste sur les demandes à la Ligue, je mets à jour. Tu voulais dire quoi, Jérôme, sur ça? Il a raison, Luis Enrique?
Non, après il a raison, il défend son club et par l'équité sportive, mais pour moi la meilleure solution ce serait de reporter le match tout simplement, parce que moi je comprends la position de Rennes, parce qu'ils ont des recettes, c'est leur match phare de l'année, c'est là qui, par la billetterie, par la recette, c'est là qu'ils font le plus d'argent, et Par rapport au PSG, eux, le Rennes, ils n'ont pas les mêmes problèmes d'argent que le PSG, quoi.
Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi.
Ça se négocie.
Là, s'il y a, économiquement, Rennes se sent floué, il doit y avoir une compensation de la part du PSG, mais je suis complètement d'accord, mais c'est des négociations qui auraient dû avoir lieu au moment où ils abordent ce sujet.
Mmh. Mais toi, ça t'a l'impression qu'on passe tout au PSG, Jérôme ?
Ah oui. Si on me dit le contraire, je sais pas. Non, juste Lyon, moi, j'ai encore ouais, de travers, hein, le non-report de Lyon. Ça me la met encore, j'ai encore de travers, hein, parce que j'arrive pas à comprendre. Faudrait quelqu'un de l'ESP qui m'explique pourquoi. Parce que l'argument, l'excuse que c'est la première journée, fallait que ça joue. Je trouve que l'année dernière, le match de Lens PSG, j'ai trouvé ça scandaleux parce que par rapport à l'équité sportive, il parle d'équité sportive. Ouais. L'année dernière, on n'a pas parlé de Lens PSG. Hein.
Si, on en a parlé. Hein. C'était quand scandaleux. Ils ont ruiné la fin du championnat à la Ligue.
Oui, mais Luis Enrique, il n'en a pas parlé en conférence.
T'as raison là-dessus.
Voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, c'est toujours quand c'est dans ton sens,
chacun défend
ses intérêts. Mais quand c'est dans le sens des autres, ouais. Et c'est de partout pareil. Hein. Il n'y a pas que le PSG, il y a tous les clubs, les entraîneurs. Quand ça parle d'arbitrage, c'est toujours pareil. C'est que un moment, on va être scandalisé par une décision d'arbitrage, on va gueuler. Mais par contre, quand c'est dans notre sens, on les entend pas. C'est toujours pareil.
Mais en tout cas, Jérôme, ton témoignage, il rejoint un peu celui que l'on a sur WhatsApp. Globalement, quand on est supporter parisien, c'est ce que je vois. Hein, on se dit, c'est normal, on défend notre équipe. Et
faut sortir de ce cadre-là.
De toute façon, on veut nous critiquer aujourd'hui, alors que les supporters des autres équipes disent beaucoup, un peu comme le disait Jérôme, j'ai l'impression qu'on laisse toujours tout passer au Paris Saint-Germain. Que si c'était un autre club, peut-être que ce serait pas le cas. C'est la petite musique, en tout cas. Et nous, on est là aussi dans les grandes gueules du sport pour vous donner la parole et pour sentir un peu. Prendre un peu le pouls de ce qui se ressent sur le Paris Saint-Germain qui se déplace ce soir à Rennes, 20h45 en clôture de la journée, de la première journée de Ligue 1. Effectivement, c'était peut-être difficile de remporter des matchs sur une première journée, hein. Même pour le diffuseur, tout ça, t'imagines, Ligue 1 Plus, ils ont 100% des matchs.
Ce serait un bon début pour eux.
Bah, t'imagines, première journée, t'as pas
à PSG. Centraliser tous les matchs et première journée.
Ouais, non, là, c'est
la récompense. En fait,
non, mais il y avait toute une complexité pour prendre des décisions. Est-ce qu'il y avait une bonne décision à prendre? C'est aussi ça la question.
Mais il y a une chose qui est sûre. PSG, ok, vous n'êtes pas en mesure d'accueillir le match. Vous allez jouer Rennes au mois de mars à Rennes. Dans ces cas-là, tu peux accueillir le match au Mans.
Pour moi, ça aurait été plus
fait. À Lens, à Auxerre, c'est à 1h30 de route.
Voilà. Tu joues sur terrain neutre. Tu joues dimanche soir, le premier gros match du championnat.
Du monde à Auxerre.
Tu joues au Mans, je sais pas.
Oui, peut-être que Ligue 1 Plus, ça n'a pas voulu.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. L'image championnat, quand même. L'image championnat. Parce que là, même à l'étranger, tu vois le match à Rennes, tu vois pas la différence, en fait, pour Rennes PSG.
Ouais, bien sûr.
Mais si tu joues effectivement tu joues dans un stade de la région parisienne, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc c'est évidemment complexe.
Un truc qu'il va falloir prendre en considération, c'est la situation climatique.
Bien sûr. Ah mais ça évidemment, et dans tous les sports,
on a bien l'acceptation que ça exactement, tu parles de tous les sports. Imagine il y a une canicule début juin à Paris et tu n'as pas le droit d'utiliser l'eau. Roland Garros, la terre battue, tu peux pas l'arroser?
On se retrouvera avec des pelouses hybrides, peut-être, comme on l'a apparemment au football américain.
Il y en a déjà des terres battues de cet acabit, ça existe déjà.
Il y en a déjà des pelouses hybrides, même en France, donc même en rugby notamment, on le voit très souvent, et d'ailleurs, les joueurs sont pas forcément pour, hein, parce que pour les blessures, c'est pas terrible. Bon, en tout cas, ça a beaucoup fait réagir. Je remercie Jérôme de nous avoir appelé au 32-16. Je rappelle qu'Arnaud Pouille, le président exécutif du Stade Rennais, sera avec nous ce soir ouverture de Bartoli Time pour la reprise ce soir à 19h30 avec Marion avant ce match face au Paris Saint-Germain à 20h45. On revient dans un instant. Julien Alaphilippe a pris sa retraite à 34 ans. Il nous a fait rêver il y a 7 ans. On va remonter le temps tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on est avec Alizé Cornet, avec Marc Madiot, avec Julien Veneto. On est à fond sur la finale de double mix en badminton, hein, championnat du monde à New Delhi.
Ah mais là ça se précise, hein, c'est chaud patate.
Alors on est
12-7 au troisième pour les Français.
Exactement, pour la paire Delru Jiquel, on est dans le troisième set décisif, hein, donc là on se rapproche.
Et c'est historique, hein.
Peut-être.
On a quand même jamais battu les Chinois dans ce genre de sport. Mais comme attends. A dit Bennett très justement, maintenant le ping-pong, enfin... Au début le ping-pong, maintenant le bad, on est en train de grignoter progressivement sur le terrain des Asiatiques.
C'est ça, mais c'est nous, les sports de raquettes, c'est nous. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et on rappelle que tout à l'heure, il y aura la finale en simple de Alex Lanier, hein, également au Mondiaux de New Delhi. La France n'a jamais fait de médaille, hein, donc là c'est vraiment historique ce que l'on vit en badminton. Et on suit ça évidemment sur RMC et toutes les réactions tout au long de la journée, bien sûr. Dans un instant, le vestiaire, on va parler du champion qui vous fait aller plus haut. Mais tout de suite, on va remonter le temps à l'été 2019, le Tour de France. Thibaut Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe font rêver le pays. Deux victoires d'étape pour Julien et 14 jours en jaune que vous aviez vécu en direct chez nous.
Ça va être bon sans doute pour Julien Alaphilippe et peut-être pour vous-même le maillot jaune. Plus que 100 mètres, moins de 100 mètres maintenant pour aller chercher la victoire d'étape, c'est fait. Victoire de Julien Alaphilippe qui s'impose ici à Épernay. Et on peut le dire avec les modifications, il y aura le maillot jaune également. Une première pour un Français depuis 5 ans, depuis Tony Gallopin.
Il lui reste 20 secondes maintenant pour gagner l'étape, ça sera sans problème. Grande avance pour Julien Alaphilippe qui va gagner l'étape avec 14 secondes sur Geraint Thomas. C'est une performance incroyable
majuscule
de la part du maillot jaune qui conforte vraiment son maillot jaune, Julien Alaphilippe.
Julien Alaphilippe, ce magnifique Tour de France qui nous avait fait vibrer, qui l'avait fait entrer dans les cœurs français avant ses titres mondiaux. Évidemment, le Tour avait été gagné par Egan Bernal, mais jusqu'au bout, avec Thibaut Pinot, ils avaient enflammé cet été. On se pose la question, il a pris sa retraite hier à 34 ans, quelle place il va laisser dans le cyclisme français. Marc, tu as pris part à cet été, évidemment, avec Thibaut Pinot notamment, tu le manageais. Julien Alaphilippe qui arrête aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie pour le cyclisme français ?
C'est une page qui se tourne. C'est un coureur emblématique. C'est un coureur qui, comme Pinot, avait su s'attirer les sympathies du public. Et le public, en général, ne se trompe pas. Il y a une cote d'amour extrêmement importante derrière Alaphilippe et qui est amplement méritée parce qu'en fait, c'est un coureur qui ne fait pas semblant. Et on s'aperçoit au fil du temps que les coureurs robotisés ou les sportifs robotisés par toutes les assistantes modernes qu'on peut connaître mettent à mal la relation que le sportif a avec le public. Et alors moi je passe pour un vieux con,
je pense pas,
pour un passéiste, mais l'essence même du sport c'est ça. Et par exemple pour le cyclisme, ce qui est important pour moi, c'est que nous sommes les descendants des forçats de la route. Et dans notre sport, le cyclisme, et comme dans d'autres, on a un peu tendance à oublier nos origines et nos racines, et ce qui a constitué l'aura et l'importance de notre sport. Et les forçats de la route, pour moi, c'est la valeur de base et la référence de ce qu'est le cyclisme. Et aujourd'hui, on y met des ingrédients autres, et des coureurs comme Alaphilippe et ou Pinot ou d'autres ont eu cette capacité à nous ramener à la réalité de ce qu'est le sport en général, et le cyclisme en particulier, à savoir... un sport d'homme, où c'est le mental de l'homme et la force physique de l'homme qui intervient.
Il magnifie et l'effort, en fait.
Et le reste, c'est de l'artifice. C'est pas la qualité du vélo, de la bicyclette en tant que telle qui compte, ou de la qualité des watts qu'on va développer qui compte. Enfin, j'ai envie de dire, on le regarde à la télé, mais voir systématiquement tous les jours la même chose, des mecs qui regardent leur écran et leurs watts, au bout d'un moment, ça fatigue. Moi, j'aimais ce que faisait Alaphilippe. J'aimais ce qu'il faisait. Il n'était pas dans mon équipe. Il nous amenait la vie dure, notamment avec Pinot sur le Tour. Mais quel coureur! Quel coureur! Quel tempérament! Quel enthousiasme! Et il transmettait quelque chose à la foule. Lui, comme Pinot ou d'autres, ont transmis quelque chose. Et il y a encore quelques coureurs comme ça. Quand on regarde un Van Der Poel ou un Van Aert aujourd'hui, on a ça. Même aussi, parfois, Pogacar, il faut le reconnaître.
Mais pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans les cadres? Parce que familièrement, ils mettent un peu le bordel?
Mais parce qu'ils sortent des chemins tracés et des lignes de watts à respecter.
Et ça envoie disparition, ça.
Ah ben oui, il faut évidemment. Évidemment.
Bennett.
Je souscris à 150% ce que dit Marc. C'est-à-dire qu'effectivement, Alaphilippe, Pinot et compagnie, ou virant qu'avant quand ils partaient dans les grandes épopées, dans les grandes échappées, ou dans, en fait, ils n'avaient pas leur watt. Donc les forçats de la route, c'était quoi? C'était leur sensation du jour et leur résistance au mal et à la douleur.
S'ils sont pas forcément, c'est pas des rationnels et des pragmatiques.
Mais mais aujourd'hui, peut-être qu'ils se seraient pas lancés dans ces grands raids là, aller chercher le maillot jaune comme ça ou tenir le maillot jaune parce qu'il aurait vu sur son compteur, je suis à 420 watts et je sais qu'à l'entraînement, je tiens que telle distance à 420 watts et qu'il va pas falloir que je me grille et que j'y vais pas, je reste à 390 watts et on verra vers la fin.
Mais hier, il y avait le chrono
sur la Vuelta.
Bruno Armirail, qui a été un de mes coureurs et qui est un charmant garçon au demeurant. À un moment, il crève. Il change de vélo
Et il est interviewé quelques minutes après son arrivée. Il dit, ah ouais, j'ai pas plus, j'ai fait dans l'à peu près, j'étais aux sensations, je n'avais plus mes watts.
Voilà. Mmh. Exactement.
Aux sensations.
Ouais, c'est ça.
Et en fait. Il était perdu.
Il était perdu. Enfin, mais en fait,
un peu
moi,
perdu.
Et pour moi, en fait, le
c'est quand même dommage.
C'est triste. T'enlèves l'essence même, finalement, de ce qu'est le sport de haut niveau, quoi.
Mmh. Et surtout, le sport, un sport comme le cyclisme, où
dans
la sensation sensation du jour conditionne ce que tu vas faire. Mmh. J'ai les jambes, j'ai pas les jambes. On entend souvent ça.
Ben oui. Aujourd'hui, ils disent plus ça, ils disent j'ai les watts.
Mais après, quand t'as les jambes, et après, quand les jambes deviennent dures, Marc en a parlé. La tête, comment tu tiens, ce à quoi tu te raccroches, qu'est-ce que tu vas essayer de chercher, etc. Et Alaphilippe, oui, il représentait ça.
Mais alors, Marc, toi qui es président aujourd'hui de l'équipe Groupama FDJ United, est-ce que c'est un discours qui est encore entendable chez les jeunes, ça? Regardez moins vos watts et écoutez-vous.
Là, on essaie de le transmettre, mais on est quand même contraint de prendre les watts parce que c'est quand même la valeur sécurité pour l'évolution d'un sportif.
Est-ce que les jeunes sont plus inspirés par Alaphilippe ou par les
coureurs Visma? Mais non, mais ils sont formatés. Aller dans les courses cadets aujourd'hui, ils enregistrent tous ce qu'ils font. Hein. Ils travaillent avec les watts.
Des nouvelles technologies, en fait,
tu travailles avec
et que tu t'entraînes avec.
Mais en course, enlevez-moi ces compteurs de watts. Gardez les oreillettes si vous voulez.
Regardez ce qui se passe.
Enlevez-moi les compteurs de watts.
Ils sont à 10 watts les uns des autres. Vous avez le gars, il est 100 mètres, ils courent à 100 mètres les uns des autres. Ils sont avec leurs watts.
Exactement.
S'ils montent de 3 watts, je vais être dans le rouge. Donc je reste les 3 watts en dessous. Ils regardent plus la distance qu'ils ont avec le gars devant eux. Ils regardent par rapport à leurs watts. Alors donc on a un spectacle, on a un défilé de récitation de watts.
Ouais.
C'est ça qu'on a aujourd'hui, notamment au cyclisme.
Ben oui.
On s'écoute un peu moins, et on regarde plus ce que l'intelligence artificielle peut dire.
Mais bien sûr, en plus, évidemment, l'intelligence artificielle intervient. Parce que je suis sûr d'une chose aujourd'hui, c'est que quand on voit le déroulé de certaines courses ou de certaines étapes, notamment sur le Tour de France, allez, à 500 mètres près, Pogacar, il sait où il va attaquer, il sait où il va mettre les 5 watts de plus qui vont faire la différence par rapport à ses concurrents.
Les joueurs et joueuses qui t'ont fait rêver, Alizé, toi, dans ta carrière, c'est ceux qui marchaient à l'instinct, ceux qui t'ont fait rêver dans ta carrière? Parce que souvent, tu parles de Nadal. Hier, tu nous as parlé d'Alcaraz, que t'étais contente de voir revenir. Parce que là, on parlait du lien charnel qui se crée entre le spectateur et le sportif.
On a moins.
En tennis, c'est un peu pareil quand même aussi.
Et Dieu merci, on n'a pas les mêmes problématique dans le tennis, parce que ça reste un sport où du coup on doit prendre des décisions en une fraction de seconde quand la balle arrive, donc il n'y a pas de data, il n'y a pas de données, il n'y a pas de watts et tout ça, ça reste quand même une décision.
Oui, les data
humaine.
Tu les as avant le match éventuellement,
tu les as avant le match, mais la responsabilité
sur des zones,
que
sur des
tu as
sur des trucs comme ça.
Et les décisions et les choix que tu prends, les prends en conscience avec toi-même, et au final ça reste, pour ça moi je trouve un sport qui est hyper intéressant mentalement aussi et en termes de prise de responsabilité, mais oui effectivement les joueurs qui tissaient un lien avec le public, qui arrivait à garder cet instinct, cette spontanéité.
Moi,
c'est des joueurs qui me parlaient, parce que la spontanéité, c'est magnifique dans le sport. C'est vraiment se laisser embarquer, et je pense qu'en se laissant embarquer, tu embarques les gens avec toi.
Mais parce qu'en plus, il y a le côté, quand il est sur le terrain ou elle est sur le terrain, il va se passer quelque chose de différent.
C'est
en fait, il y a ça, et je pense qu'il y avait ça aussi avec Alaphilippe. C'est-à-dire qu'on lui a reproché au début de sa carrière, par exemple, d'être un peu foufou et de ne pas scorer. Mais au final, son imperfection, et au final, il a fini par scorer, le rendait sympathique.
Bah oui.
Mais comme Thibaut, en fait, Pinot.
On parle de l'effet de surprise. C'est aussi ça qui donne l'adrénaline quand on regarde un sport. C'est qu'on ne sait pas vraiment.
Est-ce que les champions doivent être imparfaits, en fait, pour être populaires?
Évidemment.
Mais évidemment.
Évidemment.
Et je pense qu'on retournera à nos origines, à un moment ou à un autre, sous peine de disparition. Parce que si on reste dans les schémas, je vais parler du cyclisme, c'est ce que je connais le mieux. Mais là, vous voyez, je vais passer 3-4 jours à regarder toutes les courses. Toutes les courses qui étaient sur HBO, j'ai tout regardé parce que j'étais concerné, parce que j'avais des coureurs dans les différentes épreuves. Mais objectivement, 90% du temps, j'ai vu la même chose d'une course à l'autre. Le même déroulé d'une course à l'autre.
Hier, ça devient formaté en fait.
Et c'est quand même dommage. Uniforme. C'est quand même dommage. On a autre chose à offrir. On peut offrir autre chose.
En tennis, quand même, je vois de plus en plus les joueurs se tourner vers leur coach. Hein. Peut-être
plus
qu'avant.
Le coaching est autorisé.
Mais pareil, moi j'étais contre ça au début, parce que l'essence même du tennis, c'est de prendre ces décisions et de trouver des solutions seules. Donc forcément, à force d'avoir de l'aide extérieure, on enlève vraiment la responsabilité aux joueurs et même cette capacité de nous faire rêver parce que produit le joueur mentalement, physiquement et tout ça.
En tout cas, la retraite de Julien Alaphilippe, elle nous fait beaucoup parler sur ce que devient le sport et sur ce qu'il doit devenir. Vous savez ce qui devient un sport maître en France, c'est le badminton à 2 ans des JO de Los Angeles. Le double mixte est champion du monde. Rendez-vous compte, à New Delhi, c'est une première. La paire Delphine Delrue, Tom Jiquel a battu les Chinois en finale. Incroyable, ils sont en train de célébrer, là, en train de faire une célébration devant les spectateurs à New Delhi, alors que l'on attend tout à l'heure le Français Alex Lagnier en simple face au Japonais Naraoka en finale. Et ben, on est en train de vivre un grand dimanche de badminton. Voilà, ben, ça arrive sur
RMC. Ça commence bien.
On
y est. Il suffit qu'Arthur s'envoie le tournoi de Cincinnati et les sports de raquettes seront au sommet de leur forme.
22h30 ce soir à Cincinnati face à Tiafoe pour remporter un Masters 1000. Les grandes gueules du sport reviennent dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.